France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Il est 7h38. Comment la voiture, à travers son économie et à travers son utilisation quotidienne, peut-elle être repensée dans les années à venir? Le secteur automobile est actuellement en pleine mutation, au croisement d'enjeux forts, politiques et économiques, environnementaux ou liés aux questions de mobilité. Déjà chamboulé par la crise de 2008, confronté en 2019 au ralentissement de la croissance mondiale, aux guerres économiques, à de nouvelles réglementations et à une profonde évolution de la demande, l'industrie de la voiture doit changer. Elle est en train de changer, ce qui a des implications aussi bien sur un plan géopolitique que sur un plan technologique. Et puis, à la veille du jour le plus chargé sur les routes de France, nul besoin de rappeler que ce genre de questions entre évidemment en résonance avec pas mal de nos préoccupations quotidiennes. Bonjour Nicolas Meillant.
Bonjour Benoît.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller scientifique chez France Stratégie, senior advisor chez EV Volume, spécialiste de la mobilité du futur et de la voiture dans sa globalité. Au téléphone également avec nous ce matin, Bernard Julien, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur du GERSIPA, qui est le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. On va commencer avec vous, Nicolas Meillant. Visiblement, on n'arrive toujours pas à s'en passer de la voiture. On verra que les chiffres de vente ne sont pas très bons en ce moment. On va voir ça dans un instant. Mais les chiffres d'utilisation, eux, ils restent visiblement très élevés.
Bah, si vous voulez, il y a un endroit où on peut se passer de voiture. C'est quand on a une alternative. Hein. Donc, très souvent, c'est en ville. Paris est un exemple. Et souvent l'exemple qui est trop pris comme exemple, on a le problème de la voiture, hein, et on l'a bien vu récemment avec les gilets jaunes, c'est que pour pouvoir s'en passer, il faut une alternative. Aujourd'hui, c'est encore 80%, peut-être un petit peu moins que ça, de tous les trajets. Et donc ça, c'est le véritable enjeu de la mobilité. Les experts en mobilité vous parlent toujours de la voiture, vous parlent toujours en ville, est-ce qu'on va se déplacer en trottinette, en petite roue, en je sais pas quoi. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que on fait pour les gens qui n'ont pas le choix, et comment est-ce qu'on remplace la voiture, et c'est souvent, surtout pas en ville, mais en milieu périurbain et rural.
Oui, c'est ça. Le problème de la voiture, vous nous dites, c'est le problème des alternatives en réalité à la voiture. Ça permet de voir ce champ de réflexion complètement différemment.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas leur voiture par plaisir. Quand ils vont au travail, ils passent pas une heure, deux heures ou un peu plus dans les bouchons par plaisir. Ils aimeraient bien avoir une alternative, mais ils n'ont pas tous une gare à côté de chez eux. Et donc malheureusement, si vous voulez, quand on regarde la voiture aujourd'hui qui roule principalement au pétrole, si demain on avait pour une raison ou une autre une contrainte sur le pétrole. Avec les gilets jaunes, c'était une contrainte sur le prix du pétrole. Mais demain, ça pourrait être une contrainte sur la disponibilité. Eh bien, comment est-ce que ces gens-là vont faire pour se déplacer, sachant que le développement, ces 50 dernières années de schéma de développement, ça a été d'étaler les villes, d'éloigner, notamment avec la hausse du coût de l'immobilier, le lieu du travail du lieu d'habitation. Et sauf que quand on n'a pas la solution pour y aller à part la voiture, ça risque de poser un problème.
On voit bien que la voiture est au cœur d'un maximum d'enjeux qui nous touchent très directement dans la vie quotidienne aussi. Vous êtes spécialiste du PIC, vous parliez de la disponibilité du pétrole à l'instant, Nicolas Meillant. On en a beaucoup parlé de ce PIC de production.
PIC pétrolier, oui.
De PIC pétrolier, voilà. Et puis, depuis quelques années, on n'en parle plus, on ne le voit plus. Est-ce qu'il est quand même encore cette chimère qui peut faire peur?
Alors, vous avez eu un article en 1998 qui disait que d'ici à 10 ans, on allait avoir la fin du pétrole peu cher. Il se trouve qu'en 2005, vous avez eu un maximum de production sur le pétrole dit conventionnel, ce qui veut dire un pétrole qui coûte moins de $50 à extraire. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a eu un phénomène aux États-Unis de pétrole de schiste, qui effectivement nous a rajouté quelques années entre guillemets de plus, mais la hausse de la production de pétrole depuis 2005 ne vient que des pétroles dits non conventionnels, c'est-à-dire les sables bitumineux au Canada qui sont extrêmement polluants, le pétrole de schiste et ce qu'on appelle l'offshore prochon. Donc le jour où l'extraction de pétrole et notamment aux États-Unis arrête d'augmenter, on sera vraisemblablement assez proche de ce pic d'extraction, qui ne signifie pas qu'il n'y a plus de pétrole, mais qui signifie en gros qu'on en a extrait la moitié et que on va commencer à arriver sur la phase descendante. Pour sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui aimeraient rouler en voiture, bon, je parle pas de la France, mais je parle aussi de la Chine, je parle aussi de l'Inde, et que vraisemblablement en Europe et en France, notre approvisionnement va se réduire.
On va en parler de la Chine, parce qu'on va regarder les choses de manière un peu plus large maintenant au niveau géostratégique. L'état des lieux est pas très bon hein, sur les principaux indicateurs du marché automobile mondial en ce moment. Ils sont en net recul. Bernard Julien, vous qui êtes avec nous au téléphone, le marché chinois, qui est le premier marché mondial pour la voiture, recule. Il y a moins 12% sur le début de l'année, c'est ça? Et pour quelle raison?
Oui, alors bon, les chiffres chinois sont un petit peu difficiles à utiliser parce qu'ils sont pas tout à fait calculés comme les nôtres. Hein, mais ce ne sont pas les immatriculations, mais les livraisons des usines aux congestions, ce qui fait un petit... Bon, ceci étant, effectivement, la croissance inouïe du marché chinois qu'on avait connue depuis plus de 10 ans maintenant s'est brisée au début de l'année, et dans une industrie comme l'industrie automobile qui est un petit peu dopée, je dirais, à la croissance, qui a très, très beaucoup de mal à vivre sans croissance, c'est un tsunami que vivent effectivement assez mal la plupart des grands constructeurs mondiaux qui ont vécu d'assez belles années avec la croissance chinoise et la croissance d'un certain nombre d'autres émergents, et qui aujourd'hui commencent à s'inquiéter sérieusement d'un marché automobile qui redeviendrait stagnant, voire déclinant, hein, si la Chine cesse de croître et que les marchés mûrs, comme le marché américain ou le marché européen, sont dans une phase plutôt descendante également, alors on enregistre effectivement toute une série d'indicateurs. Hein, c'est les fameux indicateurs sur les profits, entre autres, qui sont liés à cela, et puis qui sont liés aussi à ce dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité dans laquelle on met des constructeurs du côté politique de réduire considérablement les émissions des véhicules qu'ils produisent.
Et même en Chine. Alors cette baisse du marché chinois, elle concerne tout le monde, les constructeurs internationaux, les constructeurs chinois. C'était 70% de la croissance du secteur, hein, la Chine, il y a encore quelques temps. Sur les raisons, très rapidement, Bernard Julien, vous avez évoqué la baisse de la croissance, il y a l'inflation, il y a la guerre économique, évidemment, il y a la fin d'un système aussi de financement participatif pour acheter des voitures en Chine.
Oui, hein, il y a tous ces éléments-là, et puis il y a évidemment des restrictions de plus en plus fortes qui pèsent sur les ménages hein, pour immatriculer des véhicules. Hein, la Chine ne peut pas se permettre d'atteindre les taux d'équipement qui sont ceux des Américains ou les nôtres, hein, et par conséquent, pour éviter cela, eh bien, il y a sur l'ensemble des grandes villes hein, des difficultés pour obtenir des fameuses plaques d'immatriculation, et ce sont aussi ces pressions-là qui tirent le marché chinois vers le bas, hein, sachant que quand même hein, le niveau du marché chinois il est au-dessus de 25 millions, ce qui en fait le premier marché mondial et ce qui en fait un terrain de bagarre entre les constructeurs occidentaux, coréens, japonais, mais aussi constructeurs chinois hein, qui n'entendent pas laisser leur marché aux grands mondiaux. Hein, parce que, si vous voulez, on a un espèce de phénomène du type, moi je dis souvent de deal d'héroïne, c'est-à-dire on a laissé les constructeurs rentrer en Chine en leur faisant des ponts d'or, en les aidant à s'implanter pour obtenir leur technologie, et puis maintenant qu'ils sont là, eh bien on rend la vie plus difficile, on est plus exigeant vis-à-vis d'eux, on essaie de faire en sorte que les prix des voitures soient moins élevés, hein, toutes choses qui évidemment rendent la vie un peu plus compliquée à des constructeurs qui ont fait l'essentiel de leur croissance et souvent l'essentiel de leur profit en Chine depuis 10 ans.
Les autorités chinoises ont expliqué que face à cette baisse des ventes, à cette crise, et contrairement aux précédentes, il n'y aura pas de système d'incitation à l'achat. Pour quelle raison? Est-ce que la Chine veut changer son rapport à la voiture? Parce que une des raisons quand même de la mauvaise santé du secteur en Chine, c'est aussi un déstockage qui a été réalisé hein, par les constructeurs en vue de l'arrivée de nouvelles normes anti-pollution.
Oui, donc il y a clairement une volonté de consolidation. Ça fait des années qu'on en parle en Chine, des années qu'elle ne s'opère pas, des années que les marques se multiplient, que les constructeurs s'implantent, etc. Là, il y a bien l'idée que il va falloir que le secteur se consolide hein, et qu'éventuellement émerge en Chine un certain nombre de champions qui pourront, un, tenir le marché chinois, et deux, éventuellement, organiser leur expansion internationale sur des bases un peu plus solides que celles qui se dessinaient jusqu'alors.
Nicolas Meillon, c'est un mouvement qu'on sent un peu partout, cette envie d'une autre voiture, une voiture moins polluante, moins chère, moins lourde, et surtout moins polluante. On n'attendait pas forcément de la Chine, comme ça, intuitivement, il y a quelques années. Ces politiques assez volontaristes hein, sur l'environnement et sur les normes anti-pollution. Là, il y a China 6 qui arrive, c'est ça ? La nouvelle norme ?
Oui, alors il faut savoir que la Chine a quand même des problèmes très importants de pollution atmosphérique dans les grandes villes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont mis en place ces restrictions à l'immatriculation hein, dont Bernard parlait. Juste un exemple, par exemple pour Pékin, si vous voulez vous acheter une voiture, vous devez faire une loterie, une voiture thermique, et vous avez une chance sur 200. D'avoir une voiture. Alors que si vous préférez acheter une voiture électrique, dans ce cas-là, vous avez une chance sur une, puisque récemment, ils ont levé les restrictions qui pouvaient aussi exister sur les immatriculations de véhicules électriques. Donc les Chinois ont une problématique de pollution atmosphérique. Ils ont aussi une problématique liée au pétrole. C'est aujourd'hui le premier importateur mondial de pétrole devant les États-Unis. Donc ils sont très conscients que plus ils auront de voitures, plus ils vont dépendre du pétrole. Et puis les Chinois aussi est un des derniers pays qui a une stratégie industrielle. Et ils ont décidé de devenir les champions de la voiture électrique en s'appuyant notamment sur le contrôle total qu'ils ont des éléments qui rentrent dans la composition des batteries. Et je pense notamment au cobalt, puisqu'ils maîtrisent 80%.
C'est eux qui ont les terres rares.
Du raffinage. Ils ont les terres rares, mais les terres rares, ça rentre pas forcément dans les batteries. Ça va plutôt être dans les moteurs de voitures électriques. Mais ils ont surtout le contrôle sur le raffinage du cobalt. Ils possèdent la moitié des mines de cobalt, enfin de cuivre, d'où on extrait le cobalt, qui sont au Congo. Et donc, ils vont demain être l'acteur majeur sur la voiture électrique. Et si nous, en Europe, on ne s'organise pas pour remettre en place cette chaîne de valeur qu'on a délocalisée en Chine, on risque dans quelques années d'acheter nos voitures électriques en Chine. Et d'ailleurs, dès l'an prochain et dès cette année, des constructeurs européens comme Volvo ou comme BMW fabriqueront leurs voitures en Chine pour les exporter aussi dans le reste du monde, en Europe et aux États-Unis.
C'est extrêmement intéressant parce que effectivement, les ventes de voitures électriques en Chine, elles vont très très bien en raison notamment de ce que vous venez d'expliquer. En termes stratégiques, on verra après en termes d'efficacité environnementale, mais en termes stratégiques, est-ce que il est urgent maintenant de passer à l'électrique pour les constructeurs ?
Alors aujourd'hui, c'est un enjeu qui est les constructeurs, notamment européens, se retrouve un petit peu coincé entre plusieurs éléments. Le premier, on en a parlé avec Bernard Julien, c'est qu'on est sur un haut de cycle sur le marché automobile mondial. Et ça n'est jamais arrivé qu'à la fois les principaux marchés que sont les États-Unis, l'Europe et la Chine soient au même moment en haut du cycle.
Les émergents. Hein.
Et tous les marchés en ce moment baissent. Donc c'est compliqué pour ces acteurs-là qui avaient misé beaucoup sur la Chine, notamment sur des investissements en nouvelles capacités de production. Et en même temps en Europe, ils ont des contraintes de réduire les émissions de CO2 de leurs voitures neuves, qui va les obliger à vendre plus de voitures électriques sur lesquelles ils ont des profits moindres. Et donc ils sont coincés entre ces deux contraintes, et donc les années qui viennent risquent d'être difficiles, notamment pour les acteurs européens.
Et pour les acteurs français, Renault-Nissan en particulier, Peugeot sentir un peu mieux, il y a... une situation qui est diverse en fonction des constructeurs, notamment français.
Oui, alors ça tout dépend en fait de l'exposition qu'ils ont aux principaux marchés, mais les années qui arrivent, notamment en Europe, vont forcer les constructeurs à avoir une part de leur vente de ces voitures électriques. Il faut savoir quand même que l'Europe a toujours dominé les voitures essence et diesel, hein, donc les moteurs thermiques. Ils avaient permis, on s'était protégé. Il faut savoir que l'Europe, c'est le marché le plus protectionniste au monde sur les voitures, puisque vous ne voyez pas de voitures chinoises dans la rue. Il y a une raison pour ça, c'est que ce ne sont pas des taxes qui auraient été imposées comme le fait Donald Trump, mais ce sont des réglementations, notamment sur la dépollution des moteurs, notamment sur la sécurité des véhicules, qui fait que les Chinois n'arrivent pas à vendre leur voiture chez nous. Ouais. Demain, avec les voitures électriques, ce ne sera plus le cas, et ce sera d'autant moins le cas, si vous voulez, que de toute façon, ce seront des voitures européennes.
Même si la voiture électrique n'est pas forcément la voiture propre, mais on y reviendra dans quelques minutes, Nicolas Meillant. Bernard Julien, il y a eu une grande mutation dans l'industrie automobile en 2008 ou après 2008 pour sortir de la crise, ce qui a d'ailleurs pas trop mal réussi. Les grands acteurs n'ont pas disparu. Maintenant, c'est une mutation qu'il va falloir entamer ou qu'il faut poursuivre pour répondre à une demande et pour répondre aussi à des politiques.
Oui, enfin, je crois que c'est, en gros, il y a eu au détour de 2008 cette idée, hein, quand même, que l'automobile devrait sortir de la crise dans des conditions beaucoup plus proches de celles qu'on imagine aujourd'hui que celles qui ont prévalu. Hein. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, on disait la crise, c'est l'occasion de changer de manière majeure, etc. Avec l'épisode du gaz de schiste dont parlait Nicolas Meillant, on a eu une espèce de différé de cette mutation réputée nécessaire, si vous voulez. Hein, et aujourd'hui, je dirais qu'on y est, quoi. On y est parce que les politiques chinoises sont très clairement des politiques qui obligent chacun à faire cette mutation vers l'électrique. Je dirais que l'an dernier, hein, à Bruxelles, des décisions du même type ont été prises, hein, puisque je rappellerai quand même qu'on exige des constructeurs qu'entre 2021 et 2030, ils réduisent les émissions de CO2 des véhicules neufs qui vont immatriculer de 37,5%. Chacun a compris que ça ne pourrait se faire qu'avec l'électrique. Donc on met les constructeurs au pied du mur dans un moment où on le disait, le marché se porte relativement mal. Du coup, évidemment, c'est un peu panique à bord, hein, puisque il faut que l'ensemble des dispositifs industriels, technologiques, etc., opèrent cette mutation en quelques années. Alors il y a des constructeurs qui mettent tout de suite beaucoup d'argent sur la table et dont les profits se dégradent très rapidement. Hein, il y a des constructeurs qui en mettent moins et qui cherchent à préserver leur rentabilité en électrisant, je dirais, très lentement. C'est le cas de PSA. Hein, il n'en reste pas moins que chacun va devoir accepter que ses profits opérationnels, hein, et donc la valeur servie aux actionnaires, par exemple, hein, soit à la baisse dans les années qui viennent. Et ceux qui ne le feront pas ne seront pas forcément les constructeurs qui développeront les stratégies les plus soutenables.
Alors, face à toutes ces contraintes et face à tous ces enjeux qui pèsent sur l'avenir des constructeurs, est-ce qu'on entre dans l'ère des partenariats ? Faites-nous un tableau de la géopolitique de la voiture. On voit que de très nombreux rapprochements se produisent entre constructeurs, entre laboratoires, entre start-up, entre filiales de constructeurs. Ce monde est en train de changer à vitesse grand V et avec parfois des formes étonnantes, Bernard Julien.
Oui, alors effectivement, ça c'est quand même une vieille constante dans l'industrie automobile, hein, qui ne cesse de se concentrer depuis qu'elle est apparue pratiquement. Là, évidemment, face à l'ampleur des investissements à consentir au niveau de la R&D, entre autres choses, on a des constructeurs qui partagent la ressource. En même temps, bien évidemment, si l'électrique doit devenir demain le nerf de la guerre, hein, le terrain sur lequel on se fera concurrence, les constructeurs ils vont aussi essayer de se différencier sur le terrain d'électrique. Hein, et par conséquent, il y a une espèce d'arbitrage à rendre entre la nécessité de mettre en commun un certain nombre de ressources et puis la nécessité de se différencier. Je prendrai un exemple, hein, si vous prenez le cas de Toyota, qui est un des constructeurs les plus sains, je dirais, eh bien on s'aperçoit quand même qu'ils ont décidé de cesser de dépendre pour leurs batteries des technologies des autres et d'investir très lourdement dans ce qu'on appelle les nouvelles générations de batteries, hein, ce qu'on appelle la voie solide là, hein, et d'une certaine manière Volkswagen est en train de leur emboîter le pas, alors que la religion affichée par la plupart des constructeurs jusqu'ici était de dire la batterie c'est un autre métier, ce n'est pas notre affaire, hein, donc ceci change très rapidement et effectivement c'est pas forcément entre constructeurs que les grands accords vont se nouer, c'est probablement entre les constructeurs et ceux qui détiennent les briques technologiques que les constructeurs ne maîtrisent pas jusqu'alors.
C'est si compliqué, Nicolas Meillant, de fabriquer la voiture électrique efficace du futur. La Norvège, dans 6 ans, hein, je crois, veut passer au tout électrique. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce qui est technologiquement compliqué dans cette équation ?
Alors, vous avez deux questions. Au niveau technologie, il faut savoir que le métier d'un constructeur automobile aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait à peu près 30% de la voiture. Il fait la caisse de la voiture, il fait son moteur et souvent il fait aussi la boîte de vitesse. Avec la voiture électrique, il n'a plus besoin de faire le moteur et il n'a plus besoin de faire la boîte de vitesse. Donc il ne fait plus que la caisse de la voiture. Donc il lui reste beaucoup moins de choses à faire sur la fabrication. Et après, sur l'entretien de la voiture, vous avez un entretien qui est beaucoup moins important que sur une voiture thermique, puisque vous avez moins de pièces tournantes. Et donc, c'est un double enjeu, à la fois pour lui et pour son réseau de réparation. Et c'est pour ça que Bernard et Julien évoquaient notamment ces alliances qui peuvent être faites sur les moteurs électriques. Ça a été le cas notamment de PSA, par exemple, avec l'entreprise Nidec. Ou alors des alliances qu'on peut voir fleurir avec les fabricants de batteries. Et là, c'était le cas de BMW, par exemple, avec le fabricant chinois CATL. Donc, ce type d'alliance qu'on va voir se nouer. Sur est-ce que c'est compliqué ? La Norvège a effectivement annoncé qu'en 2025, elle souhaitait que toutes les nouvelles immatriculations soient des voitures électriques ou hybrides rechargeables. Il faut savoir que c'est une incitation, alors que dans la plupart des pays, aujourd'hui, on parle d'interdiction. La France, c'est 2040, Royaume-Uni, 2040, Écosse, 2032, Pays-Bas, 2030. Alors, c'est pas compliqué, surtout quand vous êtes en Norvège, parce que ce qu'ils font en Norvège, c'est qu'ils mettent des taxes de 100 à 150% sur les voitures normales et sur la voiture électrique, ils n'en mettent pas. Donc, c'est le seul pays au monde où la voiture électrique est moins chère. Donc, quand les gens vont faire leurs achats, ils n'achètent pas forcément une voiture électrique, entre guillemets, parce qu'ils sont écolos. Ils l'achètent juste parce que ça coûte moins cher.
Restez avec nous, Bernard Julien et Nicolas Meillan. On va continuer cet entretien sur la voiture et les grands enjeux du secteur automobile.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
La suite des matins d'été, oui. On poursuit sur notre sujet ce matin consacré aux mutations à l'œuvre dans le secteur automobile confronté à d'importantes baisses de ventes, une conjoncture économique pas forcément favorable et confronté également à des politiques publiques volontaristes. Enfin, pourrait-on dire, sur les émissions de CO2, on va voir si c'est la solution que de favoriser la voiture électrique, comme c'est le cas en ce moment, la voiture électrique ou hybride, rechargeable ou pas. Est-ce que ces voitures sont moins polluantes au global que la voiture thermique ? On verra ça dans un instant. D'abord, peut-être un mot de stratégie économique pour continuer sur la première partie avant le journal de Clara Lecoq-Réal. On cherche maintenant plus du côté des constructeurs à faire du qualitatif plutôt que du quantitatif, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années. On cherchait à faire du chiffre, à vendre des lots importants. Une déclaration récente du nouveau patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, laisse entreapercevoir, Bernard Julien, peut-être une nouvelle stratégie. Je rappelle, Bernard Julien, que vous êtes le directeur du GERSIPA, qui est le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, c'est ça. Hein, vous êtes là.
Oui, je suis là.
Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie qui consisterait à essayer de trouver plus de rentabilité et à faire plus de qualitatif plutôt que de vendre des séries absolument incroyables ?
Oui, alors c'est vrai que chez Renault-Nissan, ils avaient annoncé un plan d'expansion très, très important des volumes. Face à une conjoncture qui porte assez mal de telles stratégies, ils sont un peu obligés de changer de pied. Hein. Et aujourd'hui, l'idée, ce serait effectivement de réduire les coûts pour arriver à ce que, à volume constant, les profits soient là. En même temps, évidemment, ils ont besoin d'investir massivement sur l'électrique pour garder l'avance que Renault et Nissan avaient pu avoir. Et par conséquent, ces objectifs de rentabilité, ils seront fatalement contrebattus par cette combinaison très compliquée à agencer entre stagnation des volumes et nécessité d'investir lourdement. Hein, on voit bien aujourd'hui que on a des constructeurs américains qui parviennent à sauver leur profitabilité. Mmh. On peut douter que les stratégies qu'ils développent leur permettent demain d'être présents sur le défi électrique, puisque les profits les font aujourd'hui avec des voitures extrêmement lourdes et polluantes aux États-Unis. On a eu ce débat-là au sujet de Fiat Chrysler lorsque le rapprochement avec Renault a été envisagé. On sentait très bien que si Fiat Chrysler était si profitable, c'était en partie parce qu'il préparait pas l'avenir. Hein, et par conséquent, je crains que cette obsession des profits aujourd'hui soit souvent, synonyme de d'impréparation aux, ouais. aux défis qui se présentent aux constructeurs pour les 5 ou 10 années qui viennent.
On a eu un cas assez étonnant aux États-Unis il y a quelques jours. Donald Trump, on le sait, veut assouplir les réglementations concernant les émissions de CO2 pour favoriser l'industrie automobile et aussi pour évidemment favoriser l'industrie pétrolière. Et quelques constructeurs, 4 constructeurs, ont pris l'option de ne pas forcément aller suivre ces recommandations, et avec notamment l'État de la Californie, mais avec une dizaine d'autres États, ont expliqué que non, les normes anti-pollution allaient rester pour eux, en tout cas, en ce qui les concerne, plus restrictives que les nouvelles annoncées par Donald Trump. Comment vous comprenez ça, Bernard Julien ?
Bah, très, très clairement, hein, les constructeurs américains, ou en tout cas les stratèges des constructeurs américains, ils sentent bien que les États-Unis de Trump sont en train d'organiser un espèce de déphasage des marchés américains par rapport à l'ensemble des marchés mondiaux, et par conséquent, ils aimeraient bien finalement que l'obligation qui pèse sur eux en Europe ou en Chine soit aussi existante aux États-Unis. Il y a une bagarre effectivement depuis que Trump est arrivé et qu'il a nommé à la tête de l'Agence de protection de l'environnement un climato-sceptique entre ces deux visions-là, quoi, si vous voulez. Sous Obama, on avait eu des exigences d'émissions qui étaient certes pas très très fortes, mais qui étaient néanmoins existantes. Aujourd'hui, il y a effectivement une hésitation entre, je dirais, la région des Grands Lacs, où on achète des SUV, des light trucks à tout va, et puis des tendances qu'on voit se dessiner plutôt en Californie, qui sont plus conformes à ce que nous vivons en Europe, hein, et qui sont plus conformes finalement à l'ensemble des exigences qui semblent se dessiner sur le marché mondial. Je pense que les constructeurs américains, ils ont tout intérêt à ce que leur marché ne soit pas trop éloigné, sans quoi on aura effectivement une espèce de difficulté pour les concurrents aux États-Unis à développer des stratégies qui soient soutenables hors de l'Amérique du Nord et éventuellement en Amérique du Nord, quand on regarde ce qui peut se passer en Californie et dans certains d'autres États qui suivent la Californie. C'est une grande bagarre d'ailleurs entre le patron de l'Agence de protection de l'environnement et les États américains qui résistent pour dessiner des politiques qui soient un peu moins déphasées.
Alors la Californie est en pointe pour l'électrique et pour l'hybride rechargeable. On est également ce matin avec Nicolas Meillant, conseiller scientifique chez France Stratégie, senior advisor chez EV Volume et spécialiste de la voiture électrique. Alors la question à 100 000 en ce moment, la voiture électrique, on l'accuse de ne pas être si propre que ça, notamment en raison de ces mécanismes de production. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire, Nicolas Meillant, que la voiture électrique, c'est effectivement le secteur vers lequel il faut aller pour faire enfin baisser les émissions de CO2 ?
Alors, juste pour faire le lien avec ce que vous disiez avant sur la rentabilité, hein, très rapidement, on parlait de Renault, on parle aussi de PSA. Il faut voir que PSA a beaucoup travaillé sa rentabilité ces dernières années. Et comment est-ce qu'ils l'ont amélioré ? En vendant des voitures plus grosses. On appelle ça des SUV. Aujourd'hui, en France, l'an dernier, c'était plus de 36% des ventes. Et donc là, on est à ce tournant où les constructeurs gagnent de l'argent à vendre des grosses voitures. Mais les grosses voitures sont le problème, et notamment le problème pour les voitures électriques. Donc si demain... je prends toutes les voitures vendues et je les mets en électrique, on aura résolu pas grand chose, et au niveau mondial encore moins, puisque je rappelle aux auditeurs que 40% de l'électricité au niveau mondial est faite à base de charbon.
Et que c'est donc le charbon qui fait tourner les voitures électriques pour une bonne part.
Donc quand vous roulez en France, vous allez effectivement avoir plutôt une voiture nucléaire, vous allez en Norvège, vous aurez une voiture hydraulique, mais vous allez en Allemagne, ce sera une voiture au charbon, en Pologne, ce sera au charbon, et en Chine et en Inde, ce sera aussi au charbon. Donc la voiture électrique, elle va devenir pertinente à condition de réduire la part du charbon de l'électricité, ce qui ne s'est pas fait depuis 20 ans, puisqu'on est à 40% et ça ne baisse pas. Mais comme ça ne baisse pas en part, ben ça augmente en volume, hein, puisque il ne nous aura pas échappé le développement économique ces 20 dernières années. Et alors les gens vous disent souvent oui, mais il y a les énergies renouvelables qui se développent. Quels sont les chiffres ? Les chiffres, c'est que l'an dernier, l'augmentation de la consommation d'électricité, 30% venait du charbon, 23% venait du gaz. Donc plus de la moitié venait des énergies fossiles. Donc si on ne réduit pas la part des énergies fossiles dans l'électricité, on ne résout pas de problème. Donc ça, c'est la partie production d'électricité qui est valable pour non seulement l'utilisation de la voiture, quand on la recharge, mais aussi quand on la fabrique. Parce que fabriquer sa batterie, ça consomme au moins autant d'énergie que de fabriquer la voiture elle-même.
Sur la recharge, on pourra avancer quand on aura modifié les systèmes. Alors, ça va prendre du temps, évidemment, quand on aura fait évoluer le mix énergétique. Mais par contre, sur la fabrication, là, ça sera un peu plus long. La voiture électrique en elle-même va continuer à poser des problèmes de pollution par sa fabrication.
Alors, elle, comme n'importe quelle voiture, elle consomme de l'énergie pour sa fabrication, sauf qu'en plus, vous avez besoin de fabriquer les batteries, et qu'aujourd'hui, où est-ce que sont fabriquées les batteries ? En Corée du Sud, 30 ou 40% de charbon, en Chine, 70% de charbon, au Japon, et en Europe, la première méga factory de LG Chemical sera implantée dans le pays ayant la part de charbon la plus importante au monde, qui s'appelle la Pologne, avec plus de 80% de charbon. Donc si l'idée c'est de remplacer des voitures essence diesel par des voitures fabriquées au charbon et qui roulent au charbon, une fois de plus, c'est pas forcément, on va dire que l'impact va être limité. L'autre point très important, c'est que quand on parle de transition énergétique, moi je le dis souvent, la transition énergétique, c'est la plus grande fake news de ces 10 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on reste à consommation et comportement équivalent et on se dit on va remplacer le pétrole, le gaz par des éoliennes et des panneaux solaires ou la voiture thermique par la voiture électrique. Et dans les deux cas, on remplace une énergie très dense par une énergie beaucoup moins dense. Et ça ne fonctionne qu'à condition de réduire son besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut faire des voitures électriques, il faut d'abord réduire le poids et la taille des voitures, ça s'appelle de la sobriété, et alors après on peut électrifier. Si on veut passer au 100% renouvelable, il faut d'abord réduire sa consommation d'électricité, et après on va pouvoir passer au renouvelable. Mais juste dire, aujourd'hui je me suis acheté mon SUV thermique et je vais m'acheter un SUV électrique, on ne va résoudre aucun problème. Moi j'appelle ça de l'empilement énergétique. La seule transition énergétique qui ait existé ces 30 dernières années, elle a eu lieu en France. Elle a eu lieu quand effectivement, avec les chocs pétroliers, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment très intelligent de produire notre électricité avec du pétrole ? Et donc on a remplacé le pétrole par du nucléaire. Donc c'était une transition parce que à consommation équivalente, on a remplacé une énergie par une autre. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe.
La voiture à hydrogène, Nicolas Meillant, c'est quelque chose qui arrive un peu comme l'espoir ultime. On va avoir enfin des voitures ou des bus d'ailleurs qui vont circuler grâce à une pile à hydrogène. Et là.
Oui, arrive, je vais devoir vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était en 2006, j'ai rencontré des dirigeants de PSA qui avaient commencé à travailler 40 années avant moi et qui me disaient, vous savez, il y a 40 ans, on nous disait que la voiture est hydrogène, elle était pour dans 40 ans et aujourd'hui c'est toujours le cas. Et il y a une phrase en anglais que je vais traduire en français qui dit, la voiture hydrogène a un très bon futur et l'aura toujours. Donc c'est un petit peu la chimère, si vous voulez, la voiture à hydrogène.
Pourtant, elle existe. Enfin là, ça, c'est.
Elle existe. Elle existe pas très loin d'ici, au pont de l'Alma. Ça existe, mais dans des volumes extrêmement limités. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Un, l'hydrogène, il faut le produire. Comment est-ce qu'on le produit, l'hydrogène ? Aujourd'hui, 50% du charbon et peut-être 20-30% de gaz et après du pétrole. Il n'y a que 5% qui est fait à l'électricité. Donc déjà, il faut le produire et éviter de le produire avec des énergies fossiles. Deuxièmement, il faut charger votre voiture. Une station hydrogène, c'est 1 million d'euros. Hein, une station essence, c'est 10 000 euros le pistolet. Donc vous avez
c'est
une
cher le plein, quoi.
C'est très cher. Bah, le plein sera cher, mais là, c'est surtout le développement de l'infrastructure. ça représente, si vous voulez équiper les stations autoroutes de France avec le même maillage que ce qu'on a actuellement, c'est un investissement de 5 à 10 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez significatif. Et puis l'hydrogène a d'autres contraintes, qui est que c'est un vecteur énergétique et donc le rendement de la voiture hydrogène est deux fois moins important que le rendement de la voiture électrique. Donc dans un monde énergie contraint en énergie, on ne pourra pas forcément utiliser les solutions qui ont les moins bons rendements.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on est dans une quadrature du cercle. On n'arrivera pas à faire évoluer tous ces indicateurs et à faire progresser la cause environnementale sans un rapport un peu plus sain, peut-être à la voiture. Ce sera le dernier mot, Nicolas Maillon, et puis on prendra l'avis aussi de Bernard Julien.
Oui, non. Alors, il faut bien évidemment d'abord faire changer les comportements. Et nous, ce qu'on a proposé avec France Stratégie récemment, c'est d'encourager les personnes à s'acheter des voitures plus légères, avec un système de bonus-malus, un véritable bonus-malus. Le poids moyen des voitures en France, c'est 1,3 tonne. Vous achetez une voiture plus légère, on vous donne de l'argent. Vous achetez une voiture plus lourde, on vous paye de l'argent. Et le système s'autofinance. Ceux qui veulent rouler en 4x4 vont permettre à ceux qui veulent des petites voitures de pouvoir se les acheter.
Bernard Julien, sur ce point, notre addiction à la voiture et sur la façon dont on pourrait faire changer le rapport entre le citoyen et sa voiture ?
Oui, moi je crois qu'effectivement, au-delà de la volonté que nous évoquions au début de faire en sorte que les gens utilisent moins leur véhicule, sachant qu'on aura toutes les peines du monde, comme c'était le cas depuis des années, à faire en sorte que ce soit le cas pour des raisons d'étalement urbain, entre autres, je crois que effectivement la nature de l'équipement en véhicule et l'allègement des véhicules était déjà une solution pour le thermique et sera une solution pour l'électrique. On voit très bien que il y a une certaine légitimité de l'intervention politique qui s'est redessinée ces 3 ou 4 dernières années, hein, après entre autres après l'affaire Volkswagen. Là, je pense qu'effectivement le politique et le citoyen doivent reprendre leurs droits face à des constructeurs qui évidemment ont un intérêt au changement qui est limité, hein, donc c'est ce qui s'est dessiné ces 2 dernières années en Europe. Il faut maintenant être un peu conséquent et regarder clairement les conséquences sur les politiques énergétiques qu'évoquait Nicolas Maillon, mais aussi les conséquences industrielles et sociales qui restent devant nous et qui seront extrêmement lourdes et qui pour l'instant sont bien trop peu évoquées à la fois en France et au niveau européen.
Merci Bernard Julien, directeur du GERCIPA, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Merci aussi à vous Nicolas Maillon, conseiller scientifique de France Stratégie.